Jacinthe Harel, as-tu passé une belle semaine, Jacinthe-Ève?
Oui, une belle semaine. Puis là, ben, c'est la fin de semaine qui débute.
Merci d'être là avec nous chaque vendredi. Juste à dire, petit breaking news de dernière minute. C'est notre stagiaire qui nous a appris ça ce matin. La première ministre du Québec, la nouvelle première ministre du Québec, Christine Fréchette, qui s'en va à Washington dimanche pour plusieurs rencontres avec des élus et des acteurs économiques. C'est selon de l'information obtenue par l'analyste politique Yasmine Abdel Fadel. Donc, elle part dimanche aux États-Unis, précisément à Washington, pour aller rencontrer des élus et des acteurs économiques. Les missions économiques de ce genre-là, as-tu l'impression que ça nous rapporte ça, nous, à long terme?
Ben, ça dépend. Là, elle s'en va à Washington, c'est une autre histoire qu'une mission économique. Si tu m'avais dit qu'elle s'en va en Espagne, j'aurais eu un autre discours.
Qu'est-ce qu'elle va faire, là?
Mais là, en ce moment, à Washington, ça peut être intéressant pour aller développer la perspective québécoise là-bas. Quoique, faut toujours se rappeler, hein, quand les politiciens annoncent des missions comme ça, qu'il y a des bureaux du Québec à l'étranger qui effectuent ce travail-là, qui sont en contact avec les politiciens, avec les représentants politiques et économiques de ces secteurs-là. Donc, c'est pas... Il n'y a pas de travail qui ne se fait pas en ce moment entre le Québec et Washington, mais c'est sûr que ça peut être intéressant. Encore faut-il connaître sa manière de fonctionner, parce qu'un Doug Ford qui débarque, par exemple, à Washington, ouais, ça peut faire plus de grabuge qu'aider. Est-ce que Christine Fréchette a une bonne stratégie ou en s'en va là en baveuse? Ça va être à voir aussi.
Je la connais pas encore. On connaît un peu
non,
plus
puis
Monsieur
on connaît
Ford.
Pas son côté baveux non plus. Là,
non, mais... exact. Elle a l'air un peu plus structuré, plus analytique dans sa façon de voir les choses. Je pense pas que ce soit un danger pour nous autres, mais le fait est qu'on est une province. C'est quoi l'impact d'une province dans le dossier d'import-export si Mark Carney n'est pas là?
Oui, bien, on peut être certainement regardé de haut par les politiciens américains qui y voient pas l'interlocuteur principal et ils savent que l'interlocuteur principal, c'est l'équipe d'Ottawa. En même temps, si on se sent délaissé par l'équipe d'Ottawa, et je pense que c'est ce qu'on ressent tous un peu de façon assez unanime ou assez homogène au Québec, peu importe de quelle allégeance politique on est, de quel parti politique on est, on a l'impression que tout ce qui touche l'économie du Québec n'a pas été mis de l'avant tant que ça. C'est nous qui souffrons beaucoup. Bon, il y a l'Ontario qui souffre beaucoup du secteur automobile, mais tout ce qui a trait à l'acier, l'aluminium, le bois d'œuvre, ça nous touche beaucoup aussi au Québec et on n'a peut-être pas l'impression d'être bien représenté par Ottawa. Alors, d'aller ajouter une voix, d'aller sensibiliser certains individus, ça peut être intéressant. Mais bon, c'est sûr que si je faisais partie de l'équipe Ottawa, je serais un peu embarrassée de savoir que les provinces tentent leurs négociations de leur côté aussi. Mais on peut le comprendre aussi, là. Donc, ça, tout dépend de comment c'est fait, là.
En même temps, il y a beaucoup d'enjeux. Typiquement au Québec, là, j'entends parler, par exemple, du bois d'œuvre, de l'aluminium. Ouais. Puis là, avec la stratégie de Carney, de rester très en retrait,
Ben,
pendant ce temps-là, c'est des pertes d'emplois ici. Fait que je comprends le geste de Christine Fréchette.
Absolument,
là.
Absolument. Oui, ça... Je serais peut-être la première à lui reprocher qu'elle n'a rien fait pour le Québec.
C'est ça, exactement. Ah, comme pas chouette, ça va faire partie de sa liste là, du 100 jours. Je reviens là-dessus, mais une coche de fête encore. Là. Elle va être très active durant ces 100 jours-là pour prouver qu'elle peut être la femme de la situation. Là.
Oui. En même temps, vous savez, ma sensibilité extrême pour les opérations photo puis les opérations de relations publiques puis les opérations d'apparence. Est-ce qu'elle s'en va là pour cocher la petite case et simplement prendre des photos, donner l'impression que Elle a bien représenté les intérêts du Québec. C'est un danger aussi.
Je suis d'accord avec toi parce que tantôt, avec Frédéric Boisvert, justement de la Chambre de commerce, je disais, bah, c'est bien beau, là. Elle est venue à l'hôtel de ville prendre une petite photo en chouclaque avec Bruno Marchand.
Ouais.
Là. Mais maintenant, qu'est-ce qu'au niveau économique, on va avoir à Québec? Dans les 100 premiers jours. Moi, c'est ça, je vais surveiller. C'est pas les chouclaques, là.
Et, effectivement. Et on sait que la CAQ nous a habitués à des opérations photo, à des opérations de communication. La CAQ est forte en communication. Si on s'inscrit dans cette même mouvance-là, on pourrait se... faut pas se laisser prendre au piège non plus.
Jacinthe-Ève, Max va nous parler d'un sondage léger dans les prochaines secondes, un sondage qui a été effectué et qui a été rendu public ce matin. Je te réfère à une chronique de Mario Dumont de samedi dernier. Il mentionne qu'il a lu le livre « Destination autonomie » qui est signé par le chef conservateur conservateur québécois Éric Duhaime. Il dit que le livre, c'est du solide. Il dit, dans un premier temps, il va mettre un couvercle sur la critique voulant qu'il présente des politiques concoctées sur un coin de table. Il a effectué un exercice fouillé et rigoureux pour élaborer une politique autonomiste pour le Québec dans le contexte canadien. Pourquoi, depuis quelques mois, là, l'autonomie du Québec est rendue super importante alors qu'il y a de ça peut-être un an, on n'en parlait même pas?
Bien, c'est une réaction typique des fédéralistes face à la montée de l'option souverainiste ou surtout de l'option du Parti québécois. Parce que l'option souverainiste semble stagner à 30 % d'intention de vote. Par contre, l'option péquiste, donc l'option de mettre au pouvoir le gouvernement du Parti québécois, un gouvernement du Parti québécois, fait peur, bien sûr, à tous les fédéralistes qui se positionnent. Puis Éric Duhaime s'était moins positionné historiquement sur la question nationaliste, sur la question de l'identité du Québec. Donc là, il le fait avec cet ouvrage qui a été fort bien salué et fort bien reçu.
Fait que Duhaime va être porteur d'une troisième voie possible. Ouais. Donc, pas de fédéralisme, pas de souveraineté, mais nous, on veut que le Québec ait encore plus de droits qu'il en a là actuellement à l'intérieur du Canada. Fait qu'il est target pas pire.
Un Québec plus fort au sein d'un Canada uni.
Ce qui était la CAQ aussi à la base. Ouais. Ouais. Ben, c'est ça, le sondage léger, le journal de ce matin, là, les résultats, en gros, c'est que les Québécois veulent que le Québec obtienne plus de pouvoir au sein d'un Canada uni. De manière générale, c'est à peu près 60 % des répondants qui veulent que le Québec dispose de plus de pouvoir et d'autonomie dans le Canada. Mais quand on va dans certains champs de compétences plus importants, ben là, c'est une forte majorité. On est en haut des 80 % pour tout ce qui est santé, finances publiques, agriculture, développement économique, taxes et impôts, éducation. Puis on n'est pas loin des 80 % non plus pour environnement, création de richesses et immigration. Puis ce que note le sondeur Jean-Marc Léger, puis ça fait un beau lien avec une chronique dont on a discuté ensemble hier, la chronique de Richard Martineau sur le fait que les Québécois veulent un peu tout et son contraire. Jean-Marc Léger dit « Les Québécois veulent un pays IKEA. Ils veulent tous les morceaux, mais ils ne veulent pas l'assembler. On veut tous les morceaux de la souveraineté. Mais on veut pas l'ensemble. »
Ouais, puis on comprend pas non plus que le magasin nous vendra pas les pièces une à la fois. Ouais. ça, c'est l'angle mort là, qu'il faut se rappeler collectivement. Bien sûr, c'est presque des vœux pieux de vouloir un Canada plus autonome, plus indépendant, d'avoir des provinces plus indépendantes, d'avoir un pouvoir à Ottawa très décentralisé. C'est ce que souhaite Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta. C'est ce que souhaitent plusieurs politiciens aussi au Québec, notamment avec la Coalition Avenir Québec et là maintenant Éric Duhaime. Mais en même temps, ça fait quand même plusieurs tentatives qu'on fait pour rapatrier justement quelques morceaux du magasin à Ottawa et le magasin à Ottawa ne nous laisse pas avoir ces morceaux. Alors, c'est là où on devra peut-être davantage creuser le comment. Parce que nos politiciens sont très forts pour faire des vœux pieux. Je réfère aussi des vœux pieux en matière d'autonomie, mais je réfère aussi au discours de la première ministre du Québec quand elle dit on va avoir des belles écoles au Québec, puis on va réinvestir en santé parce que la santé, c'est important, puis on va rajouter 1 million d'heures en soins à domicile, comme si... on step et on se dit « Ah ben oui, c'est ça, ça prend plus de soins à domicile. » Mais on va pas dans le comment. On va les ajouter comment, les 1 million d'heures en soins à domicile? Y a-tu vraiment des travailleurs de la santé en ce moment qui sont assis chez eux ce matin puis qui n'ont pas d'heures à faire en soins à domicile? Puis ils attendent juste ça, qu'on leur donne des heures? Non. Il manque de monde pour le faire. Donc, d'ajouter 1 million d'heures, c'est un peu une solution dont on n'a pas creusé le comment. Et c'est la même chose avec l'autonomie du Québec. Quand on dit on va rapatrier les pouvoirs, on va avoir un pouvoir décentralisé, tu vas le faire comment convaincre Ottawa de dire en immigration, on veut 100 % le contrôle, on ne veut plus que ce soit une compétence partagée. La Coalition Avenir Québec a tenté par tous les moyens. J'en ai été témoin parce que j'ai travaillé au sein du cabinet du ministre de l'Immigration, Simon-Jolin Barrette, quand il a commencé en 2018-2019. Les négociations avec Ottawa étaient impossibles à obtenir. On n'était pas capable d'avoir... De temps en temps, là, au bout de 3 ans de négociations, on finissait par se faire offrir un chèque pour compenser l'arrivée massive des demandeurs d'asile au Québec. Puis là, on se faisait donner une couple de millions comme ça pour compenser parce qu'on avait pu démontrer sur papier qu'il y avait plus de demandeurs d'asile qui venaient en sol québécois. Mais c'était une solution à la pièce pour quelques années. Tiens, on va vous faire un chèque pour ces 2 dernières années. Puis vous nous vous cognerez à notre porte dans 2-3 ans pour demander un autre chèque, mais ça, ça ne donne pas des pouvoirs. Alors là, le comment, ça va être intéressant de le creuser. J'espère qu'on va avoir des journalistes, des chroniqueurs, puis on va avoir des citoyens aussi qui demandent beaucoup plus de détails, parce que des beaux vœux pieux, là, hey, on va avoir des belles écoles, on va avoir un beau système de santé, on va rapatrier.
C'est pas la première fois qu'on l'entend.
Mais non, c'est ça. Là.
Mais au-delà du comment, puis je reprends ton exemple en immigration, là. C'est possible de le faire. T'sais, parce que tu viens de le dire, là, pendant 3 ans en immigration, avec un ministre très bien ferré comme Simon Jolin Barrette, tout ce que tu as reçu, c'est un chèque pour dire hey, ferme ta trappe, prends l'argent, puis tu m'en reparleras tantôt.
Ouais.
Me semble qu'il est impossible, comment, moi, là, je suis trop négatif.
Absolument, ben oui, parce qu'en immigration, c'est un bon exemple, OK? On va souvent parler de, ben, il faut envoyer les immigrants ailleurs, ou il faut contrôler, ou il faut régionaliser l'immigration, comme si c'est un champ de patates, puis que les immigrants, c'est des patates qu'on plante à gauche, puis au nord, puis au sud.
Ben,
ce sont des personnes humaines qui ont le droit de vivre n'importe où
ben,
sur le territoire
là-dessus.
Canadien.
C'est comme si moi, on me disait, hey, toi, Jean-François Fortin, t'as toujours resté à Québec, fait que tu vas rester à Québec jusqu'à la fin de tes jours.
C'est
là,
ça.
J'aurais pas le droit d'aller à Trois-Rivières.
Non.
Ben non, mais pourquoi tu me brimes dans ma liberté?
Ou on va te faire signer un contrat, là, puis faut que tu t'engages pour les 5 prochaines années à aller vivre à Amqui.
Mais... Oui, c'est ça. Mais là, Amqui, mon patron va mal me traiter, il va falloir que je reste là pendant 5 ans.
Exactement. Mais ça, ces enjeux-là de géographie ne seraient qu'en gérant nos propres frontières, nos propres passeports, notre propre territoire.
Et c'est pas le cas.
Mais non.
OK. Ça date déjà de quelques jours, mais il y a eu un sondage léger sur les intentions de vote des Québécois, les intentions de vote provinciales. Donc, on a posé des questions aux Québécois. S'il y avait des élections demain matin, tu votes pour qui? Le Parti québécois est arrivé premier. Les libéraux sont arrivés deuxième. Puis après ça, on a posé une autre question. Si jamais Paul Saint-Pierre Plamondon met la souveraineté de côté, est-ce que vous voteriez pour un parti différent? Et là, Paul Saint-Pierre Plamondon et le Parti québécois montent à 39%. Paul Saint-Pierre Plamondon, moi, c'est pas mon préféré. Je trouve qu'il a des aptitudes à devenir premier ministre du Québec. Par contre, son attitude, je la sens pas encore à point. On embauche des gens souvent pour leurs aptitudes, puis on les congédie pour l'attitude. Il y a quelque chose qu'il faut que je donne à Paul Saint-Pierre Plamondon parce qu'il a fait une sortie un peu plus tard avec ces chiffres-là. Je me suis aperçu que cet homme-là, jusqu'à maintenant, c'est un homme de conviction. Et ça, je trouve ça tout à fait respectable de la part d'un futur chef d'État.
Un homme de conviction, il a montré une belle intégrité dans son discours, justement en disant « Moi, je ne veux pas commencer à être incohérent dans mes valeurs, dans mes propos, dans ce que j'ai promis puis dans ce que je vais concéder au fur et à mesure que les sondages sortent. » Parce que ça, c'est un sondage qui vient de sortir qui dit que si on mettait l'option de référendaire de côté, les gens voteraient plus pour le PQ, mais dans un mois, pourrait sortir tout à fait l'inverse et là, il serait coincé à travers tout ça. Donc, il y a une belle ligne droite, une belle ligne franche et cette intégrité-là, je pense que tout le monde peut la saluer. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de dévoiler un côté supplémentaire de ce politicien qu'on connaît sous d'autres angles. La chose que je trouve particulière là-dedans, c'est que on semble avoir très peur d'un référendum, mais il va falloir justement démocratiser et parler davantage de qu'est-ce que c'est qu'un référendum. La Suisse, les citoyens suisses votent plusieurs fois sur des questions référendaires. On meurt pas parce qu'on se fait questionner. Au contraire, c'est une démocratie encore plus saine, encore plus vivante. C'est une démocratie encore plus près de l'esprit démocratique que de sonder tes citoyens puis de dire « Hey, sur cette question-là, là, qu'est-ce que vous en pensez? »
En Alberta, ils vont le faire prochainement avec 9 questions sur un paquet de sujets. Ils ont lancé un site web dans les dernières heures où ils détaillent chaque question. Ça va être quoi le sujet? Ouais. C'est quoi le but? Fait que ça, c'est ça, démocratiser le mot « référendum ».
Oui. Et tu fais bien de le mentionner parce que nous, on est comme en choc post-traumatique là, de 1980-1995. Un référendum, ça nous rappelle des conflits intrafamiliaux, des conflits entre amis, le clan du oui, le clan du non.
Ça me rappelle Canadien nordique à Noël.
Ben oui!
Mais au fond, c'est l'occasion pour tout le monde de se prononcer, y compris ceux qui veulent pas l'option de l'indépendance. Alors moi, j'ai du mal à m'expliquer ceux qui ont tellement peur de se faire questionner là-dessus.
Moi, j'avais demandé à Agnès Maltais dans le temps, c'est dans le cas d'un troisième référendum, puis vous obtenez encore un non.
Ouais.
là, c'est quoi? Ça va-tu être un 4 de 7? Là? Ça va-tu finir à un moment donné? Puis elle dit, non! Ça finira jamais! Puis, tu sais, elle était convaincue que, regarde, faut en faire 25 référendums, mais un moment donné, faut se séparer.
Ben moi, je suis d'accord qu'on en fasse régulièrement. Justement, moi, j'en ferais peut-être à chaque mandat gouvernemental, à chaque 4 ans. Là. J'ai pas réfléchi longuement à quelle fréquence, OK? Mais je vais t'expliquer mon raisonnement avec ça. Sonder la population active ici et maintenant, c'est une photo aujourd'hui.
Ouais.
Mais la photo de 1995, c'est pas la même qu'aujourd'hui. Depuis 1995, il y a plein de monde qui sont morts, il y a plein de monde qui ont atteint l'âge de la majorité, il y a plein de gens qui ont changé d'idée.
Il y a des gens qui sont nés, gars, t'en as un là à côté de toi.
Oui. Ben oui.
Donc,
as-tu connu le référendum, toi?
Ben non.
Ben non, je suis trop jeune. 2001. C'est là 30 ans.
Ah, oh, 2001.
J'avais moins 6 ans.
Ben, on l'avait fait le calcul, Max. Merci.
Ah, mais pour ceux bon qui sont moins vite, là.
C'est ça.
T'étais dans la pensée de Dieu.
C'est ça.
Ouais, j'étais de Dieu peut-être, de mes parents pas encore pantoute. Là.
Fait que là, pour toi, c'est juste des documentaires, ça.
Ben ouais, puis c'est regarder des discours en pleurant.
Ah ouais.
Ben ouais, moi, je regarde les René Lévesque, puis Jacques Parizeau, puis j'ai des larmes.
Fait que c'est comme
tu vois
la
le papa avec son enfant. Moi, ça, cette image-là m'a marqué, le papa qui pleure avec son enfant dans les bras.
Mais c'est de la fausse nostalgie, c'est pas de la nostalgie qui t'appartient.
Ben, ça peut-tu m'appartenir si ça me tente? T'es qui pour décider si la nostalgie m'appartient ou pas, toi?
Ben, faut que tu l'aies vécu.
Ben non, je peux la vivre. C'est une nostalgie du passé que moi, je veux dans mon futur.
Ben ouais, c'est...
Si ça fait du sens.
Ben attends, là, j'ai la définition de nostalgie. C'est un sentiment de tristesse mélancolique mêlé de regret, souvent provoqué par le souvenir idéalisé du passé.
Ben oui,
l'éloignement d'un lieu ou le désir insatisfait. Ben,
faut que tu l'aies vécu.
Ben non, je pense pas. T'sais, moi, je regrette qu'on ait pas voté oui.
Je suis pas un cruciverbiste ni un Bernard Pivot, là, mais d'après moi, t'as pas le droit de t'approprier la nostalgie de quelqu'un d'autre.
Moi, je pense que oui.
Ben, c'est une nostalgie patriotique.
Oui, voilà.
Voilà. Okay. C'est un patriote.
Jacinthe, tu nous unis, Jacinthe. Merci d'être là chaque vendredi. OK, l'entente avec les médecins spécialistes, Max va nous la déterminer convenablement dans les prochaines secondes. Mais moi, je suis un peu conspi dans l'âme, là. Et je me dis que cette entente-là, ils se sont entendus il y a de ça quelques semaines et ils se sont entendus aussi pour que ce soit la nouvelle chef ou le nouveau chef qui sera élu et qui puisse l'annoncer. T'es-tu un peu conspi avec moi dans ce dossier?
On n'est pas cave à temps plein.
Donc, les membres de la Fédération des médecins spécialistes, en effet, qui ont accepté hier soir l'entente de principe dans une proportion de 86%. En gros, là, les grandes lignes, augmentation de 9% de l'enveloppe destinée à la rémunération des médecins spécialistes. À ça, on ajoute, ou du moins, on pourrait ajouter un 2% selon l'atteinte de certaines cibles de performance. Et on peut aussi ajouter là, un 1,5% qui va pour la rémunération des chefs de département et de service. Et c'est ça, au total, qui va nous mener donc plus près de ce que demandaient les médecins. Parce qu'on se demandait un peu au début, il me semble qu'ils ont mis pas mal d'eau dans leur vin. C'est avec l'atteinte de cible de performance plus l'argent pour le staff, en gros.
Eux autres, ils voulaient 14,5. Puis là, ils ont obtenu 11 avec un petit bonus supplémentaire pour gérer les cliniques.
On peut pousser puis dire 13,5, mettons.
OK.
Ouais.
On a-tu gagné? Est-ce que la population a gagné quelque chose dans cette aventure-là?
Bien, quand quelque chose se règle, selon moi, on est toujours gagnant, là, parce que maintenir le conflit, ça a toujours des impacts. Ça a des impacts sur le roulement quotidien des opérations. Ça a des impacts aussi sur le mécontentement puis le focus aussi des élus ou des négociateurs qui s'en va pas sur d'autres dossiers prioritaires. Puis Dieu sait qu'il y en a une trollée de dossiers prioritaires en santé, là. Donc, les négociations avec les médecins spécialistes, c'est une bonne chose que ce soit réglé. À 11% plus des petits bonbons à gauche, à droite, on est proche de ce que le gouvernement était prêt à aller. Il disait que c'était son plafond. Le plafond du gouvernement, c'était 11%.
Mm-hmm.
Là, on rajoute quelques petits bonbons optionnels. Bon, peut-être que ces bonbons-là sont presque accessibles à la majorité des médecins spécialistes parce qu'il y en a beaucoup qui vont chercher des titres de chef d'unité, chef de département et compagnie. Donc, ça permet d'aller chercher ça. Donc, moi, j'y vois un gain certain. Puis, La Fédération des médecins, des omnipraticiens, avait obtenu 14,5 % sur 5 ans. Donc, on est quand même en dessous de ce que la Fédération des médecins omnipraticiens avait obtenu, ce qui est dans la logique parce qu'on voulait rattraper l'écart entre les deux. Là. Donc, c'est normal, là, on s'attendait à ce que les spécialistes n'obtiennent pas tout à fait autant parce qu'on essayait pour les omnipraticiens de rattraper l'écart. Donc, ça me semble des chiffres qui sont assez prévisibles. Puis, comme tu dis, ils sont tellement prévisibles que probablement que c'était déjà... c'était pas mal dans les cartons.
Excuse-moi. Olivier Niquet, est-ce que tu connais Olivier Niquet?
En tout cas, lui me connaît beaucoup. Ça fait des années qu'il parle de moi dans ses chroniques.
Cet être inutile pour un organe comme Radio-Canada qui prend des cotes de radio ou il prend des cotes de télé, puis il les replace pas dans le contexte, il met juste des petits segments, puis après ça, il fait des montages avec ça, puis il tente de faire rire sa crowd, en avait contre le hockey qui est présenté à TVA Sport. Il y a beaucoup de commandites à TVA Sport. Ouais. TVA Sport se bat depuis des années à essayer d'être rentable. Malheureusement, ça ne fonctionne pas pour eux autres, même s'il y a beaucoup de gens qui écoutent le hockey à TVA Sport. Mais ils doivent greffer des commanditaires. Et ça semblait vraiment achaler Olivier Niquet, qui a fait un segment sur TVA Sport et les commandites. Et Renaud Lavoie a été heurté par ça. Puis avec raison, là, tu sais, je veux dire, quand tu es employé d'une business qui se bat pour rester en vie, puis tu as quelqu'un qui bénéficie de subventions pour pouvoir travailler, qui critique ton travail à toi parce que tu as des commanditaires, c'est assez ordinaire. Renaud Lavoie a écrit à Olivier Niquet: « Olivier Niquet, vous avez franchi une ligne qui démontre clairement votre manque de jugement total. » Jusqu'ici, t'apprends rien. Et votre non-respect des artisans derrière et devant la caméra qui tentent à tous les jours de faire de TVA Sport une chaîne plus que respectable. Vous aimez souvent inventer des vérités et véhiculer des mensonges à notre endroit. Typique d'un troll, mais tout ça pour un micro et un salaire payé par nos impôts. Je peux vivre avec, mais que vous vous attaquiez à ceux et celle qui, tous les jours, s'assure que TVA Sport soit viable, c'est inacceptable. Évidemment que dans votre tour d'ivoire, vous ne comprenez pas la complexité de la chose, mais faut-il vraiment être surpris? Continuez de regarder les gens dans votre milieu de haut avec un snobisme qui vous définit. Reste qu'une chose est certaine, vous seriez incapable de passer 5 minutes dans nos souliers et j'espère surtout que cela n'arrivera jamais. » Il a ramassé Niquet. Et tu sais quoi? C'est pas le premier qui ramasse Niquet. C'est pas le premier qui veut le ramasser. Olivier Niquet mérite ce qu'il a obtenu avec le poste de Renaud Lavoie.
Tellement. Oui, Olivier Niquet mérite cette sortie qui a dû faire du bien à bien des gens qui le regardent opérer depuis longtemps. Je dis opérer parce que...
C'est un bully!
C'est des opérations bully qu'il fait, effectivement. C'est notre plus grand bully, probablement, au Québec. Quel grand insignifiant, pareil. Gagner sa vie avec un salaire payé par les fonds publics. Radio-Canada, c'est lourdement subventionné, très lourdement subventionné. Radio-Canada qui va chercher en plus des revenus publicitaires parce que Radio-Canada est lourdement subventionné, mais il y a une tarte, une pointe de tarte où ils vont chercher des recettes publicitaires en plus et se permet de dénigrer constamment le travail des autres. C'est l'essence même de toutes ces chroniques. C'est de prendre le travail, prendre la création du travail des autres en choisir des extraits et démolir la personne qui a participé à créer du contenu. Peu importe, dès que le contenu sort de sa ligne éditoriale, il prend des segments, il démolit et il fait ça sous couvert humoristique. On dit que c'est de l'humour. Je ne sais pas qui rit quand il entend Olivier Niquet. Moi, je...
C'est des gens qui sont aussi tarés que lui. Là, t'es entends... Ah, c'est très drôle. Ils sont tout le temps de même. Là. Ils font partie de la gang à Niquet, là.
Moi, là, ça me ramène... Je te le dis, là, Yannick.
C'est très drôle, c'est Niquet.
Moi, je vais te dire où ça me ramène. À chaque fois que je suis témoin de ces segments-là, là, je les écoute pas. Non, ça me ramène dans la cour de récré de l'école primaire, peut-être aussi au début du secondaire. Ouais. il y avait toujours une petite gang de fraîchiers, là, mieux habillés que les autres, puis avec les enfants de parents riches. Là. Moi, c'était ceux-là.
Oh, oui, non, t'as raison.
Je suppose.
L'image est très bonne.
Mais les gosses de parents riches, mieux habillés que tout le monde, puis que les parents ont des belles voitures et des belles maisons.
C'est
là.
Radio-Canada,
puis, ça. Oui! Puis, dans le cours de récré, ça prenait de haut tout le monde. Puis, au secondaire aussi, ça prenait de haut tout le monde. Puis aujourd'hui, à notre âge, on les regarde, ces gens-là. Là, on rit plus parce que...
Ils n'ont pas toujours
bien fini. Hein?
Exactement.
Ils ont souvent besoin de ton argent pour vivre.
Ouais.
C'est le cas d'Olivier Niquette. Mais quel parasite. Quel parasite.
C'est très juvénile. C'est très juvénile comme raisonnement, ce qu'il a. C'est très abject. Et moi, je le nomme le parfait insignifiant. Mon père, qui a toujours adoré Yvon Deschamps, a adoré l'humour, mais l'humour bien fait. Là.
Ben oui.
L'humour, le style Yvon Deschamps. Puis quand mon père a vu apparaître des nouveaux humoristes après Yvon Deschamps, là, il qualifiait souvent des grands insignifiants. Là. RBO, pour lui, c'était de la grande insignifiance totale. Là. Ben pour moi, la grande insignifiance, c'est Olivier Niquette.
Mais il va avoir vraiment un bon humoriste ce soir sur les planches de la salle Albert Rousseau au Gold Show.
Jacinthe, tu savais tout ça?
Non?
Salle Albert Rousseau, c'est la salle pour les humoristes au Québec qui fait vibrer la plupart des humoristes.
1300 personnes.
J'ai la chance de jaser avec plusieurs humoristes dans mon podcast, là, puis ils me disent tout le temps, il y a quelque chose d'exceptionnel à la salle Albert Rousseau, puis tu sais, on doit travailler pendant des années, dans un bar, dans un resto, on doit faire des événements avec des entreprises et tout ça, patati patata. Puis là, on s'entraîne, puis là, quand on arrive à la salle Albert Rousseau, c'est comme la consécration pour certains humoristes. Ben, Jeff, qui a jamais fait aucun spectacle d'humour, va faire ce soir son 3 minutes à la salle Albert Rousseau devant 1300 personnes.
Wow. Au gang show. Faut que je réussisse à faire 3 minutes d'humour sans que les juges décident de frapper sur le gang pour me dire « Ferme-toi, t'es pas assez drôle. »
J'espère que ton inspiration d'humour, c'est pas Olivier Niquette.
C'est pas Olivier Niquette du tout, sinon je me ferais gagner après 10 secondes.
Mais c'est ça, fait que c'est ce soir, ça va se passer. Il reste peut-être une vingtaine de billets.
Ouais, à peu près.
Puis 1300 personnes, donc c'est tout à ton honneur, Jeff, de participer à cet événement-là. Lundi, Jacinthe, on va diffuser le spectacle de Jean-François.
Oh, le 3 minutes dans son intégralité.
Sur les ondes de boulevard, oui.
3 minutes ou moins.
Puis là, ben, on rira ensemble ou on pleurera ensemble la victoire ou la défaite de Jeff.
On va avoir des émotions, ça c'est sûr. Je sais pas quelles émotions, mais
j'aimerais vous dire que...
Mais tu comprends que ça va être un meilleur show pour nous autres si t'es vraiment mauvais, là.
Je sais. Puis je pense que ça donnerait vraiment un meilleur show pour le gong show aussi. Mais je me pratique pour tenter d'être bon.
Sa propre blonde a dit « Je mets un gilet capuchon exceptionnellement parce que si c'est pourri, je vais pouvoir me le mettre sur la tête. »
Écoutez ça, Oli, le fils à Val, m'a écrit ce matin pour me dire « Merde pour ton show. Je suis sûr que ça va bien aller. Je te connais assez bien pour savoir que tu vas me faire rire. »
Bon.
Ben, la confiance.
L'important, c'est qu'on rit pas comme ça.
Monsieur Niquette, vous êtes tellement drôle. Ah,
non, si ça rit de même, je me sauve.
Ils sont si médiocres, ces paysans. La plèbe, la pauvre plèbe.
Quand on m'a demandé si j'avais besoin d'un Olivier Niquette dans ma vie, j'ai dit j'ai autant besoin d'un Olivier Niquette dans ma vie que d'un deuxième anus.
Bon.
Jacinthe.
Là-dessus, hein?
Merci beaucoup. On se reparle vendredi prochain.
Ça finit proprement.
Bye. Paysanne.
Boulevard 102.1. C'est l'heure du Pit Stop. Travel dans le retour.
Là, faut aller au téléphone, je crois.
Oui, allô?
Allô, à qui on parle?
Ariane,
t'es une des deux stagiaires présentement. Là, faudrait que tu nous expliques c'est quoi un clap wow. On aimerait tellement ça être trendy, là, comme vous dites.
Je comprends. Ben là, Denis, suis-moi, ça va aller vite, OK?
Oui, je vais essayer de suivre.
OK. C'est une façon de s'encourager. Ah, j'ai booké une entrevue.
OK.
Bravo.